La différence, ça enrichit une société, ça enrichit la vie de manière générale. Se confronter à l'altérité, ça fait grandir, en fait. Et puis, surtout, ce que j'aurais envie de dire aux enfants qui sont potentiellement des victimes, c'est de changer de regard.
Quatre personnes en situation de handicap sur cinq se sentent fortement exclues de nombreux domaines de la vie. De l'isolement au regard des autres, du travail au loisir, de la charge mentale pour aller aux toilettes ou au restaurant, de la sexualité au logement et j'en passe, nos témoins partagent leur quotidien. Bienvenue pour cet épisode de notre podcast « Écoutez pour voir », une invitation à briser les barrières invisibles pour que le droit d'exister ressemble plus à une évidence qu'à un combat. Céline Vitchard nous fait l'honneur de partager avec nous son histoire en tant que personne malvoyante de naissance. Elle aborde plusieurs thèmes qui lui sont chers, notamment l'accès des personnes malvoyantes à la culture et à l'écrit. Céline nous explique comment elle déconstruit les préjugés et nous livre des anecdotes précieuses aux personnes qui partagent son vécu ainsi que leurs proches. Un grand merci à la ville de Lausanne dont le soutien a rendu la réalisation de cet épisode possible. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours personnel et des défis que tu as rencontrés en tant que personne malvoyante de naissance ?
Dans mon parcours personnel, il est assez long, comme celui de beaucoup de monde. J'ai envie de dire que des défis en matière de parcours, j'en ai rencontré certainement, mais qui n'ont pas été particulièrement prégnants jusqu'à que ma vue se détériore plus qu'elle ne l'était déjà. Donc moi, je suis née, j'étais malvoyante de naissance. Et j'ai vu à peu près à 40% jusqu'à l'âge de mes 30 ans. Et jusqu'à mes 30 ans, on va dire que mon parcours scolaire, professionnel, n'a pas particulièrement vécu de problématiques majeures. Une première étape, peut-être, ça a été celle de l'entrée à l'école obligatoire au début des années 90, puisque à l'époque, on faisait une distinction essentiellement entre les personnes aveugles et les personnes voyantes. Donc, on avait tendance à dire que les personnes aveugles allaient en spécialisé et les personnes qui voyaient allaient évidemment en école ordinaire. Et il se trouve que moi, je voyais, mais je voyais mal, en fait. Donc, mes parents se sont énormément battus au moment de mon entrée à l'école pour que je puisse intégrer l'école publique. Il se trouve que par un hasard de circonstances, l'année où je devais intégrer en fait l'école publique, l'enseignante qui devait m'accueillir dans sa classe en première enfantine avait eu en classe l'année précédente une jeune élève porteuse de trisomie 21 et avec qui ça s'était pas forcément très très bien passé en école inclusive et qui du coup ne voulait absolument pas se retrouver de nouveau confrontée avec une élève en situation de handicap l'année suivante. Ce à quoi mes parents ont fait largement opposition jusqu'à l'inspection des écoles à l'époque. Et le compromis qui a été trouvé, c'était que j'effectue une demi-journée par semaine en école spécialisée à Genève et le reste de ma scolarité en école inclusive, ce que j'ai fait du coup. Donc, je ne regrette pas du tout d'avoir été une demi-journée par semaine en spécialisée, même si très fondamentalement, je m'y ennuyais passablement, mais j'ai appris notamment à dactylographier à l'aveugle, ce qui m'est toujours très utile à l'âge adulte. Et j'ai appris aussi un certain nombre d'autres choses qui sont aussi des compétences que je peux aujourd'hui utiliser de manière relativement transverse. Mais j'ai la chance d'avoir réalisé mon cursus scolaire dans le public quasiment à 80%, à 90% pendant l'école primaire. Et puis à partir du cycle d'orientation et ensuite au gymnase et à l'université, intégralement dans le public, puisqu'à la fin de l'école primaire, j'ai eu l'opportunité de choisir en fait si je voulais continuer à avoir toujours un pied dans le spécialisé ou non, et mon souhait a été de quitter le spécialisé en sachant que j'avais besoin de certaines adaptations quand même pour effectuer les cours, notamment des photocopies A3, le fait de pouvoir avoir accès à l'ordinateur par exemple au collège, etc., pour prendre des notes. Mais dans l'absolu, ça n'a jamais empêché ma scolarité, et je pense que là il y a déjà potentiellement des biais qui se mettent en place. Moi, j'ai la chance d'avoir toujours été une plutôt bonne élève, qui posait pas trop de problèmes de, je dirais, de discipline en classe, par exemple. J'étais, enfin, franchement, je rasais les murs, hein. J'étais vraiment le stéréotype de la bonne élève qui a des bonnes notes, qui écoute, qui aime lire et puis qui embête pas grand monde. Qui est plutôt celle qui se fait embêter, d'ailleurs.
Tout à l'heure, tu as posé les mots harcèlement scolaire sur ton vécu à l'école primaire et au cycle d'orientation. Est-ce que tu veux nous en parler?
Moi, je fais clairement partie de ces gens qui ont vécu du harcèlement scolaire à l'école, tant à l'école primaire qu'au cycle d'orientation. J'ai fait partie des élèves qui étaient embêtés. Après, honnêtement, je dirais pas que c'était... Enfin, je dirais pas que j'ai l'apanage d'avoir vécu le harcèlement scolaire du fait que j'étais en situation de handicap, parce que je connais plein de gens dans mon entourage qui étaient aussi un peu des bons élèves ou des bonnes élèves et qui ont aussi vécu du harcèlement scolaire et qui n'avaient aucun handicap particulier, si ce n'est celui d'avoir des bonnes notes et puis d'être un peu la tête de turc en classe, hein. Mais dans l'absolu, c'est vrai que moi, j'ai été embêtée. J'ai été jusqu'à être coursée dans la cour de récré à l'école primaire par la moitié de la classe sans que les enseignants qui surveillaient lèvent le petit doigt. Hein. Ça m'est eu arrivé. Après, ça ne m'est pas arrivé souvent. Je pense que ça m'est arrivé deux fois dans ma vie. Mais clairement, c'est des choses qui me sont arrivées, alors avec lesquelles je vis tout à fait bien aujourd'hui. Mais clairement, je pense que le fait de... Enfin, les enfants, ils sont des fois très cruels entre eux, il faut le dire. Et clairement, ben, la différence, quand on est enfant, ben, elle n'est pas toujours... Je pense qu'aujourd'hui, ça a changé, hein, mais et ça change, ça continue de changer, à évoluer dans le bon sens. Mais à une époque où la différence, on ne la voyait pas beaucoup dans les cours de récré, forcément, ça générait potentiellement de la stigmatisation. Comme on en vit à d'autres niveaux, potentiellement encore aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire aux enfants d'aujourd'hui sur la différence ?
La différence, ça enrichit une société, ça enrichit la vie de manière générale. Se confronter à l'altérité, ça fait grandir, en fait. Et puis, surtout, ce que j'aurais envie de dire aux enfants qui sont potentiellement des victimes, c'est de changer de regard. Moi, pendant très longtemps, et vraiment pendant très longtemps, j'étais cette personne assez timide, assez renfermée sur elle-même, discrète, parce que... J'ai aussi été éduquée comme ça, hein. J'en veux d'ailleurs pas du tout à mes parents, hein, qui m'ont toujours dit que des imbéciles je rencontrerais tout au long de ma vie et puis qu'il fallait appliquer la théorie de la bave du crapaud n'attend pas la blanche que l'ombre. Mais en fait, ma propre expérience de vie m'a démontré que ça marche très bien avec certaines personnes, mais pas du tout avec d'autres, en fait. Et que du coup, la bave du crapaud qui n'atteint pas la blanche que l'ombre, certaines personnes, il faut juste simplement leur rentrer dans le cadre une bonne fois pour toutes et ça les calme. Et moi, j'ai vécu ça avec un type qui était avec moi au cycle d'orientation et qui manque de chance pour moi, m'a suivi les 3 années du cycle d'orientation dans la même classe et qui lui, clairement, je ne sais pas, avait une dent contre moi, hein, mais parce que lui, il était aussi pas très aimé des autres. Alors bon, il a trouvé plus faible sur qui taper vu que moi, je ne répondais pas. Enfin, taper au sens très psychologique du terme. Et j'avais toujours droit à des petites remarques mesquines, etc., pendant les cours auxquelles je ne répondais pas. Jusqu'au jour où c'est arrivé à un point critique. Je me rappelle, j'étais en dernière année du cycle d'orientation, en plein cours de géo, un cours sur les besoins vitaux. Et le type qui était assis tout au fond de la classe, et moi évidemment tout devant parce que sinon je ne voyais pas le tableau, sort comme ça à la cantonade. Oui, et puis il faudrait des lunettes pour Céline. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis levée, j'ai appuyé les mains sur le bureau, je me suis tournée vers lui, j'ai dit « Oui, mais toi, il te faudrait une bonne brosse à dents. » Parce qu'il avait mauvaise haleine, le garçon, voilà, bon, manque de bol. Et silence de mort dans cette salle de classe. Personne n'a rien dit, ni les autres élèves, ni l'enseignante, parce que je pense que c'était tellement impromptu comme ça que j'ai une réaction. Je me suis rassise aussi sec que je m'étais levée. Le cours a continué. Il n'a plus jamais recommencé. Et depuis ce jour-là, je ne l'ai plus jamais fermé, en fait. Je me suis dit, le prochain qui, entre guillemets, m'emmerde, je lui dis ces 4 vérités et ça passera très bien, en fait. Ou ça passera pas. Mais par contre, je vais arrêter de me laisser marcher sur les pieds. Et ça a vraiment changé quelque chose dans ma vie parce que à partir de ce jour-là, j'ai commencé à m'affirmer et à me dire, mais en fait, bon sang. J'ai le droit d'exister, quoi. Et j'ai le droit d'exister tel que je suis, tel que j'ai envie d'être. Et non, je ne suis pas une petite chose fragile qui, parce qu'elle va rencontrer un certain nombre d'imbéciles probablement au cours de sa vie, comme tout le monde, doit faire en sorte de, de passer sous silence et de continuer à raser les murs. Donc j'ai arrêté de raser les murs à partir de ce jour-là, et à partir de l'année suivante, de la rentrée suivante, j'ai commencé à avoir un cercle. Moi, j'avais déjà des amis, hein, soit dit en passant, mais mon cercle amical s'est considérablement étoffé au collège, avec des amis qui me suivent encore aujourd'hui pour la très grande majorité d'entre elles.
Tu as fondé Vision Positive en 2019 et cofondé l'association Plein Accès Suisse en 2022. Une médiathèque numérique accessible aussi qui s'appelle Mona Lira, qui passe elle aussi un cap. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Avec plaisir, oui, c'est vrai que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2019, au moment où ma vue a empiré. D'ailleurs, c'est pas rien de le dire, hein, parce que c'est assez contre-intuitif de se dire qu'on se lance dans un défi entrepreneurial au moment où la santé potentiellement se détériore. Parce que moi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai été licenciée, en fait, au moment où ma vue s'est détériorée, et j'en ai profité pour me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? J'ai plein de cordes à mon arc, notamment dans la transmission de l'information, dans la mise en forme de l'information aussi, puisque je suis ancienne enseignante, ancienne journaliste et ancienne spécialiste en information documentaire. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? On va combiner l'expertise technique et l'expérience d'usage du handicap visuel et créer une entreprise pour accompagner les structures dans la mise en place de supports, notamment de communication accessible. Ça, c'est pour la partie entrepreneuriale. Et effectivement, toujours dans l'idée d'œuvrer à une transmission du savoir, c'est que c'est vraiment une thématique qui a un important fil rouge dans ma vie. Lorsque j'ai été sollicitée par mon collègue Alex Bernier en 2022 pour créer les associations Plein Accès Suisse et France et lancer une médiathèque numérique accessible pour permettre aux personnes qui ne peuvent pas lire l'imprimé en raison d'un handicap de lecture, j'ai littéralement sauté sur l'occasion et j'en suis ravie aujourd'hui. Et surtout, la médiathèque numérique accessible Mona Lira, qu'on a lancée le 6 mars 2023, fête cette année ses 2 ans. Et c'est un cap non seulement important en termes de longévité, même si on en est vraiment au tout début, mais surtout, c'est un cap absolument grandiose en termes de production de livres accessibles, puisqu'on a aujourd'hui atteint plus de 50 000 livres au catalogue dans 5 formats différents. Et ça, pour nous, c'est une vraiment très, très grande réussite. Enfin, c'est quelque chose dont, personnellement, je suis très, très fière à plein d'égards, puisque quand on a lancé notre service, on ne nous a pas forcément beaucoup pris au sérieux, je dirais, ou en tout cas, on a attendu de voir ce qu'on serait en mesure de faire, en sachant qu'on était 3 au départ de cette association, qu'aujourd'hui, on est à peine plus, et qu'en étant un si petit nombre de personnes, on a réussi à impulser quelque chose dans des proportions qui étaient jusqu'ici pas égalées en Suisse romande, et puis pour lesquels on a encore de grandes ambitions. On aimerait bien arriver à 100 000 livres adaptés d'ici à fin 2025. Donc doubler encore le nombre de livres au catalogue déjà présents. Aujourd'hui, on adapte des livres de littérature générale, je dirais essentiellement des romans, des livres, je dirais des textes suivis. Mais on travaille ardemment à l'adaptation d'autres types d'ouvrages, notamment des guides de voyage, des ouvrages scientifiques, des ouvrages académiques.
Quelles sont tes ambitions pour la suite ?
Notre ambition avec Mona Lira maintenant, c'est de nous implanter efficacement dans les bibliothèques publiques et scolaires, dans l'idée que les livres adaptés soient directement accessibles dans le public. Parce que aujourd'hui, quand on lit de manière différente des livres du commerce à cause d'un handicap de lecture, on doit passer des structures publiques aux spécialisées. Et donc, on se désocialise, entre guillemets, des lieux publics qui sont les bibliothèques. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de faire la démarche complètement inverse. On veut œuvrer pour une société réellement inclusive.
Tu parles de littérature scientifique, c'est quoi l'enjeu d'adaptation d'articles scientifiques, j'imagine.
Alors, typiquement, c'est un enjeu. La littérature scientifique, que ce soit les articles de base de données ou les ouvrages, par exemple, de mathématiques, physique, chimie, biologie, l'enjeu est important pour les élèves, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on en est à un point où les personnes en situation de handicap sont souvent relativement bien scolarisées et représentées dans les échelons inférieurs de l'éducation, donc école primaire, cycle d'orientation, enfin, jusqu'à la fin de l'école obligatoire. C'est franchement ça, l'inclusion fonctionne relativement, plutôt pas trop mal. Et plus on monte dans les niveaux d'éducation, pour arriver au secondaire 2, au tertiaire, et moins on a de personnes en situation de handicap représentées. Et le fait est que ce n'est pas uniquement lié aux questions de compétences, c'est lié aux questions d'accessibilité de la formation, en fait. Tant au niveau des supports de cours que des ouvrages qui peuvent être consultés pendant les cours en question. Typiquement, si on prend l'exemple de l'agrégation de mathématiques en France, moi, je ne suis pas du tout française, hein, mais je connais le concours, sur le principe. Ces agrégations, qu'elles soient en sciences humaines, en mathématiques, etc., se préparent sur la base de bibliographies qui sont assez exhaustives la plupart du temps. Et pour préparer l'agrégation de mathématiques, on n'a aujourd'hui aucun livre de la bibliographie qui est accessible pour une personne qui est aveugle, par exemple. Et donc, ça pose la question de savoir comment une personne aveugle, qui potentiellement peut être très douée en mathématiques, pourrait accéder à l'agrégation? La réponse est aujourd'hui, elle ne le pourrait pas en fait. Parce que les livres qui permettent de préparer l'agrégation ne sont pas accessibles. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de cas pratiques en Suisse romande comme ailleurs en francophonie et partout dans le monde, pas forcément francophone, de cursus académiques qui ne sont pas accessibles. Pas parce que les personnes n'ont pas les compétences de suivre le cursus en question, mais parce que tout ce qui est nécessaire au suivi de ce cursus n'est pas rendu accessible aux personnes qui ont des handicaps de lecture, entre autres. Moi, je peux donner un exemple très très concret. À la base, j'ai une formation d'historienne. J'ai un master en français et en histoire de l'Université de Genève. Aujourd'hui, si je voulais refaire mes études, je pourrais probablement pas les refaire parce que je n'aurais en histoire, par exemple, pas du tout accès aux sources manuscrites. C'est pas du tout que j'en ai pas les compétences, parce que mon diplôme, je l'ai obtenu et relativement très bien obtenu. Mais, en l'occurrence, je pourrais plus réaccéder aux documents. Donc, j'aurais de grandes difficultés, voire l'impossibilité à refaire le parcours qui est le mien.
Oui, parce que tu nous disais qu'à l'époque, tu voyais encore à 40%, c'est ça?
Et du coup, à l'époque, j'ai pu faire mes études d'histoire et de français sans aucune difficulté. Probablement, j'étais très collé au texte pour lire, mais ça m'a jamais empêché de lire des pages et des pages et des pages. Et Dieu sait qu'on en lit en études de lettres. Et en l'occurrence, j'ai toujours été une grande lectrice à l'époque sur papier. Aujourd'hui, j'ai plus la capacité de lire des petits caractères sur papier en format ordinaire. Je dois lire soit en grand caractère, soit même plutôt aujourd'hui sur liseuse, ou en audio, ou audio et texte synchronisé par exemple, ou voire en braille. Pour moi, le principe, c'est de pouvoir démultiplier les accès à l'écrit, les accès au texte, de façon à ce que qu'on puisse avoir accès à l'information, en fait. Ça, c'est, pour moi, c'est fondamental, que ce soit dans les études ou ailleurs. Enfin, pour vous donner une idée aussi très concrète de ce qui aujourd'hui n'existe pas du tout, je vous parlais de l'adaptation de guides de voyage. Aujourd'hui, des livres à ce qu'on appelle maquettes complexes, ça n'existe pas, en fait. C'est quasiment pas adapté, voire pas adapté du tout, dans le monde des bibliothèques spécialisées. Donc, trouver un guide de voyage accessible pour une personne aveugle ou malvoyante, mais en fait, vous ne en trouvez pas. Le Routard, le Michelin, que sais-je, le Petit Futé, Lonely Planet et autres, vous les avez pas, en fait. Ça ne veut pas dire que les personnes en situation de handicap, elles ne voyagent pas. Pour nous, c'est aussi important de se dire, on doit pouvoir avoir cette autonomie-là, de se dire, mais qu'est-ce qui empêche quelqu'un qui ne voit pas ou qui est dyslexique comme il faut de pouvoir consulter un guide de voyage et préparer ses vacances ou son prochain road trip seul ou accompagné, comme tout le monde en fait.
Quelles sont tes aspirations pour l'avenir de Vision Positive? Quels sont les défis qui restent à remplir?
Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, les aspirations qui me tiennent le plus à cœur, c'est notamment de faire en sorte de former les professionnels des bibliothèques, notamment en bibliothèque publique, pour que les bibliothèques commencent à avoir une démarche inclusive des publics qui sont empêchés de lire et que la lecture, entre guillemets, adapté, spécialisé, entre dans le public et qu'on n'ait plus ce silo entre spécialisé et public. Je pense qu'aujourd'hui, un des grands défis, en fait, et pour lesquels j'œuvre d'ailleurs avec Vision Positive, mais pas seulement au niveau des bibliothèques, c'est de faire en sorte qu'en fait, il n'y ait plus ce cloisonnement entre personnes en situation de handicap d'un côté et société entre guillemets ordinaire de l'autre. Donc, vraiment œuvrer à une véritable inclusion, pour moi, c'est faire en sorte que ces barrières, elles sautent en fait. Et ça va de pair avec ce projet que j'ai d'accompagner, avec plusieurs formations que je dispenserai d'ailleurs cette année aux bibliothèques, mais aussi de manière générale dans l'accompagnement des entreprises, dans le coaching aussi des entreprises, de façon à adapter les cahiers des charges des personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent s'intégrer et être complètement incluses sur le premier marché du travail quand c'est une possibilité qui est souhaitable et souhaitée de part et d'autre, dans l'idée que ce qui est mis en place, tant dans la culture, au niveau des expositions, des festivals, des ateliers de médiation culturelle, mais aussi dans d'autres domaines, notamment dans les domaines du service ou de la vente, soit réfléchi en amont, prenne en considération le volet de l'accessibilité. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important, parce que c'est en prenant en considération cet aspect du développement qu'on va progressivement mettre en place des services, des biens aussi, des prestations de manière générale, qui soient utilisables et utilisées par le plus grand nombre de personnes possible.
Pour les personnes qui nous écoutent, où est-ce qu'on trouve les ouvrages que vous adaptez ?
Alors, les ouvrages qu'on adapte, on les trouve sur la médiathèque numérique accessible Mona Lira, lui comme la Mona Lisa, mais elle lira un livre, sur www.monalira.org.
Tu proposes aussi des formations à la communication inclusive et accessible. Quels sont les éléments clés de ces formations et pourquoi, selon toi, elles sont importantes et qu'est-ce que ça procure aux gens qui les suivent ?
Je pense que tu parles essentiellement de la question de l'écriture inclusive, qui est une formation qu'on dispense depuis quelques années maintenant entre Vision Positive, qui est donc mon entreprise, et l'Institut des Cadrés à Genève. Et c'est une formation qui est importante parce que quand on parle d'écriture inclusive, souvent aujourd'hui, on voit cette question de l'inclusion sous le prisme de l'orientation de genre et des problématiques LGBTQIAP+, et surtout de la visibilisation également de la non-binarité, avec notamment l'intégration du X ou de police spécifique, etc. Et certaines pratiques de l'écriture inclusive, telles qu'elles sont appliquées, notamment les outils ponctuatifs, comme le point médian, entre autres, mais pas seulement, peuvent poser de très très gros problèmes d'accès à l'information et sont de véritables freins à la lecture pour les personnes qui utilisent des moyens auxiliaires comme des lecteurs d'écran, c'est-à-dire des outils qui vocalisent en fait ce qui est écrit sur un écran d'ordinateur ou un écran de smartphone ou de tablette. Et en fait, ces problématiques-là sont généralement peu connues, parfois peu prise en considération par les personnes qui sont très adeptes de l'écriture inclusive. Il faut savoir qu'il n'y a pas une façon d'écrire en inclusif, hein. Il y en a énormément, et la problématique majeure, en tout cas pour les personnes déficientes visuelles, c'est vraiment l'utilisation de la ponctuation. Et en fait, nous, ce qu'on montre dans ces formations, c'est que déjà, l'écriture inclusive, ce n'est pas que l'outil ponctuatif, c'est toute une boîte à outils de différents moyens d'écrire en inclusif, hein. Ça va de la féminisation des noms de métiers à l'utilisation de doublets comme messieurs, mesdames, etc., l'utilisation de mots valises qu'on utilise beaucoup, de plus en plus d'ailleurs à la radio, notamment comme auditrice, qui passe très très bien à l'oral et qui passe tout à fait très très bien à l'écrit également, à partir du moment où on n'intègre pas de la ponctuation. Et moi, je suis toujours très effaré de constater que le handicap est un peu l'angle mort de toutes les luttes. Je trouve très très bien qu'on fasse de l'écriture inclusive et puis qu'on parte du principe qu'il faut visibiliser plus les femmes dans la langue, qu'on, pourquoi pas, intègre la non-binarité, etc., etc. Après, il ne faut pas qu'on visibilise et qu'on mette en avant une minorité ou des minorités au détriment d'une autre, en fait, ou d'autres, au pluriel. Et ça, c'est dans cette démarche-là qu'à l'époque, j'avais approché des cadres en disant, voilà, vous donnez cette formation, sachez que, en l'occurrence, ce point médian, il est très problématique pour un certain nombre de personnes pour qui, en fait, son utilisation de manière répétée et, je dirais, exagérée, pose de très gros problèmes d'accès à l'information, en fait, voire va empêcher l'accès à l'information pour certains publics. Parce que ça crée du bruit, ça parasite, etc. Et quand c'est mal employé, on ne peut juste plus accéder à l'information.
Parce que, pour qu'on se rende compte, le point médian, il est lu aussi.
Par le point médian est tout à fait lu par les synthèses vocales, en fait, les lecteurs d'écran. Et en fait, il est lu comme étant la marque d'espacement, ou voire éventuellement point médian tout court, des fois disent les synthèses, parce que ce point médian, de base, il est invisibilisé, en fait, hein, dans un traitement de texte. Ce caractère spécial, de base, il est caché pour tout le monde, et on peut le visibiliser sur un traitement de texte Word Up en cliquant sur le petit bouton marque de paragraphe qui se trouve juste à côté de la barre des styles, et qui permet de visibiliser les alinéas, et ça va visibiliser aussi ce fameux point médian. C'est la marque d'espacement entre chaque caractère. Et c'est ce qu'on utilise notamment en correction typographique pour vérifier qu'on n'a pas mis un double espace de trop entre deux mots. Donc pour une personne qui est aveugle, enfin non-voyante, et qui doit faire de la correction, elle va afficher ça. On ne peut pas le faire taire, parce qu'on a besoin de savoir s'il y a deux espaces entre deux mots. Et du coup, le fait de visibiliser quelque chose qui de base est caché, ça va faire que ça va être lu par défaut aussi, du coup. Et c'est, comme c'est un caractère spécial, aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de le faire taire parce qu'en fait, il a un usage, ce point médian de base dans un traitement de texte. Et cet usage, il ne va pas changer parce qu'on a décidé de le mettre dans l'écriture inclusive.
Donc, si on utilise le point médian, c'est tous les deux mots qu'on entend point médian.
C'est à chaque fois qu'il est visibilisé dans le texte. Mais fondamentalement, on devrait utiliser un autre signe de ponctuation. Et nous, ce qu'on préconise, si vraiment vous êtes obligé d'utiliser un signe de ponctuation, utilisez le trait d'union. Parce que le trait d'union, en français, il est « tu ». Dans « après-midi », la synthèse vocale, elle va lire « après-midi », en fait. Elle ne va pas lire « après-midi ». Parce que c'est un signe de ponctuation classique.
Merci pour ces précisions. Quand tu donnes des formations à des entreprises, il y a une question de sensibiliser les organisations à l'importance d'inclusion des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que tu leur dis aux entreprises ?
Ça dépend beaucoup de l'entreprise et de ce pourquoi j'ai été engagée, j'ai envie de dire. Voilà, la plupart du temps, je travaille beaucoup avec le milieu de la culture qui, déjà, de base, a une certaine sensibilité. En tout cas, en Suisse romande, le milieu culturel œuvre déjà très efficacement pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Alors, il y a sûrement des inégalités en fonction des cantons et des structures, en fonction aussi des moyens qui peuvent être alloués. Ça, c'est tout à fait possible. Mais de manière générale, c'est quand même une thématique qui est très portée par le milieu culturel, notamment parce qu'il y a eu aussi le label Culture Inclusive de Pro Infirmis qui a pas mal porté aussi cette lutte, on va dire, de manière générale. Et qu'est-ce que je dis aux entreprises ? Ben, ça va un peu vraiment dépendre de leurs besoins. Mais que je dis de manière systématique et que je montre de manière systématique, c'est que derrière le handicap, il y a des personnes et qu'on s'adresse à une personne. Donc souvent, le handicap, c'est une thématique qui fait peur. Les gens, ils ne se projettent pas du tout en situation de handicap, ils ne se projettent pas du tout, entre guillemets, diminués ou porteurs d'une déficience quelconque. Parce qu'il y a ce culte aussi dans notre société du jeunisme absolu. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de se dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la politique du grand âge, etc., des seniors. Et il faut savoir que typiquement, dans la déficience visuelle, le 90% des personnes qui sont concernées par le handicap visuel, c'est des personnes qui ont plus de 65 ans. Plus vous vieillissez, plus on vieillit, puisque je me compte dedans aussi. Plus on a de risques d'être concerné par une déficience visuelle, quoi, en gros. C'est pareil pour la déficience auditive. Donc, généralement, les handicaps sensoriels sont assez corrélés avec l'âge. Sauf que, chercher l'erreur, à partir d'un certain âge, on parle de vieillesse ou d'âge. Et quand ça touche les gens plus tôt, quand ils sont censés être en pleine forme, c'est un handicap. Parce que dites pas à une personne âgée qu'elle est handicapée, en fait. Hein, la plupart du temps, elle va juste vous dire qu'elle est âgée puis qu'elle voit mal.
Et que c'est dans l'ordre des choses.
Et que c'est dans l'ordre des choses parce qu'on devient vieux. Mais le fait est que c'est pas plus. Enfin, voilà, est-ce que c'est moins dans l'ordre des choses quand ça arrive plus jeune ? La question est ouverte. Je crois que je me suis un peu égarée.
Mais
je disais que, la question c'était qu'est-ce que je dis aux entreprises ? Ouais. Et effectivement, je dis aux gens, adressez-vous directement à la personne. Posez-lui directement la question. Et surtout quand la personne est accompagnée. Parlez à la personne concernée. Parlez pas à la personne accompagnante comme si la personne accompagnée n'était pas là, en fait. Le nombre de fois où ça m'est arrivé, même en allant au restaurant, d'être la première dans la salle et d'avoir la personne qui accueille, qui pour le placement à table, etc., qui s'adresse à la personne derrière moi, mais vraiment, ça arrive, ça m'arrive encore aujourd'hui. Et encore il n'y a pas si longtemps, je vais vous donner un exemple très concret. Je suis allée manger avec des amis au restaurant il y a quelques semaines de ça. Très bon restaurant, etc. À table, on était une équipe mixte, entre guillemets, avec des amis qui étaient tout à fait voyants, un ami non-voyant de longue date, et puis un autre ami qui voyait mal aussi. La personne au service fait le tour, et puis à un moment donné, mon ami aveugle avait pris un morceau de viande avec un os. Voilà. Donc, et puis il a un chien guide. Et donc, le serveur s'adresse aux amis voyants en disant « Oui, vous pensez qu'il voudra l'os ?» Et on était tous à table, je veux dire. Et puis, en l'occurrence, on a les yeux qui dysfonctionnent, pas les oreilles. Et là, l'ami a eu une réaction très juste. Et elle, tout de suite, elle a dit « Je ne sais pas, demandez-lui. » Mais parce qu'en fait, spontanément, la personne est... Alors que c'est d'un manque de logique crasse. Enfin, je veux dire, si tu poses une question, on va répondre. Est-ce que je veux l'os ? Oui, non. Enfin, c'est pas parce que je vois pas que je suis pas en mesure de répondre à la question. Et ce genre de réaction, en fait, c'est, je pense, souvent... Et de nouveau, je mets pas la faute sur les gens, parce que je pense que c'est souvent une certaine maladresse. On sait pas comment se comporter, on n'a pas appris à le faire. On a ce côté de gêne, de pas être à l'aise, en fait, avec la question du handicap. Et on ne sait pas, parce qu'on n'est pas formé. Et alors que finalement, moi, je suis quelqu'un de très humaniste, je me dis qu'on devrait avoir la même attitude avec tout le monde, en fait. Qui que ce soit la personne qu'on a en face de nous, on devrait être bienveillant, accueillant et... ouvert à qui on a en face de nous, quelles que soient ses différences. Tout le monde a ses différences. La plupart des handicaps sont des handicaps cachés. Une personne qui est dyslexique, à moins qu'elle vous écrive, vous n'allez pas vous en rendre compte. Et pourtant, on en croise tous les jours. Il y a des personnes qui ont du diabète, il y a des personnes qui ont des maux de dos chroniques, etc. Ça ne se voit pas forcément. Pour vous donner une idée très concrète, j'ai une amie qui, depuis quelques temps maintenant, a une stomie, c'est-à-dire qu'elle a une poche, en fait, pour gérer tout ce qui est en lien avec la digestion, les selles, etc., parce qu'elle a dû être opérée. Et en fait, ça ne se voit pas du tout extérieurement, parce que c'est sous les vêtements, etc., et c'est une très belle femme. Et en fait, je lui ai posé la question l'autre jour, je lui ai dit, je pense que ça doit quand même être particulier. À quel moment tu le dis quand tu rencontres quelqu'un, par exemple ? Parce que forcément, ça ne se voit pas. Et c'est vrai que j'imagine que ça peut potentiellement être un frein pour certaines personnes. Et c'est vrai que là, en l'occurrence... Elle m'a dit, mais en fait, jusqu'ici, ça n'a jamais posé de problème. Et puis, quand ça en pose, ça fait un filtre naturel à idiot. Hein. C'est une grande thématique, la question des rencontres quand on a un handicap.
Tu nous as mentionné deux anecdotes, dont une sur une récente rencontre. Est-ce que tu veux nous en parler ?
Avec plaisir. Oui, je disais qu'effectivement, les rencontres quand on est en situation de handicap, c'est toujours un grand moment de parfois de solitude, parfois de cynisme et parfois de beaucoup d'autres choses, mais il vaut mieux le prendre à la rigolade. Clairement, quand on est en situation de handicap, en l'occurrence, je peux parler que de ma propre situation, mais le handicap visuel empêche pas d'avoir une vie de couple et puis d'avoir une vie relationnelle amoureuse et amicale épanouie, comme celle de tout le monde avec des hauts et des bas. Et puis du coup, de temps en temps, quand on est célibataire et puis quoi, potentiellement on est motivé à se remettre en couple, et on fait comme tout le monde, hein, on écope les sites de rencontres et on se met sur le entre guillemets marché. J'adore cette conception de la société moderne. Et récemment, il m'est arrivé un truc comme il peut en arriver à plein de monde, je pense. Hein. Mais clairement, là, c'était tout à fait en lien avec le handicap. Alors moi, je fais partie de ces gens qui vont discuter et puis à un moment donné, avant la rencontre dans la vraie vie, vont annoncer quand même la couleur parce que je pars du principe qu'il faut être honnête dans la vie et puis que je préfère que ça s'arrête avant la rencontre plutôt que de me prendre un râteau en attendant quelqu'un à un café qui n'arrivera jamais. C'est quand même plus agréable de ne pas se prendre un râteau en vrai. Et du coup, je discutais avec quelqu'un et je lui dis, qui était très très intéressé et très très motivé à aller boire un café le jour même des premiers échanges. Donc je me dis, tiens, c'est sympa, passons le moins de temps possible derrière un écran, allons boire un café, c'est une bonne idée. J'explique, je suis déficiente visuelle. Que répond-il ? Ah oui, non, mais en fait, moi, je cherche une personne très active avec qui je vais pouvoir partager un maximum d'activités. Je lis ça, je me dis, je ne vais même pas perdre mon temps à essayer d'argumenter quelque chose et à lui expliquer, mon pauvre garçon, tu ne me connais absolument pas parce que nous n'avons pas eu le temps d'échanger sur ce que je fais dans la vie et qui je suis. Mais en l'occurrence, je suis peut-être 15 fois plus active que certaines personnes qui n'ont aucune déficience visuelle ou aucun handicap d'aucune sorte. À quel moment préjuges-tu que, parce que je te dis que je me déplace avec une canne blanche dans la rue, mon activité principale dans la vie est de m'asseoir sur mon canapé et de regarder mon plafond ?
S'il savait ce qu'il a manqué avec l'activité que tu...
Ouais, mais c'est pas grave, parce qu'en même temps, c'est un bon filtre à imbécile, en fait. Hein. Enfin, je veux pas préjuger que c'est un imbécile, ça s'en met peut-être pas un, mais c'est quelqu'un qui a des préjugés, en tout cas, et qui a des a priori. Et c'est fou le nombre de personnes qui se disent ouvertes d'esprit et qui ont des a priori et qui ont des jugements un peu hâtifs, sans même connaître les gens, en fait. Et ça, je trouve que c'est, pour le coup, c'est très dommage et c'est tout à fait transverse et ça se réplique à bien d'autres domaines que la question des rapports humains sur le plan amoureux, c'est le côté, prends le temps de découvrir qui est l'autre, en fait. Et que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie amicale, que ce soit dans la vie, potentiellement, dans l'idée de construire une relation amoureuse, ne t'arrête pas juste à la première image que tu te fais, à l'apparence, et surtout, pitié, ne t'arrête pas à la canne blanche. C'est juste consternant, c'est un outil. En fait, moi, il m'aide à me déplacer dans la rue, c'est tout. Il ne fait pas de moi qui je suis, parce que je ne suis clairement pas ce bâton, en fait.
Il y a une forme d'absurdité dans les anecdotes que tu racontes.
Il y a effectivement un côté très absurde. Et en même temps, on est, j'ai envie de dire, dans une société qui prône tellement l'image, l'apparence, etc. On est tellement loin de la spontanéité, etc. Moi, je lisais encore il n'y a pas si longtemps un article qui, pour le coup, ne parlait absolument pas du handicap, mais je pense qu'à un moment donné, ça va développer des handicaps sociaux. Hein. Par rapport à ces questions de rencontre, aujourd'hui, les gens utilisent tellement de filtres sur les applications Snapchat, Instagram, etc., pour remanier leur peau ou les lèvres pulpeuses et autres, qu'en fait, les gens, quand ils se rencontrent en vrai, ils sont choqués et ils se reconnaissent pas tels que sur la photo et du coup ils se disent ah non mince ensuite et du coup ils veulent plus voir en vrai. On se concentre tellement sur l'apparence, sur ce qu'on a envie de montrer sous son plus beau jour, etc., qu'on n'est même plus en mesure de supporter la réalité.
Ça devient difficile et ça fait beaucoup d'a priori et de cases à remplir quelque part avant une rencontre, ce qui n'est pas tellement normal et logique.
On se met une pression tout seul, en fait, alors que fondamentalement, moi, je vais pas dire, parce que là aussi, on peut déconstruire les stéréotypes dans l'autre sens. Hein. Il y a des gens qui vous diront, il y a des gens qui auront certainement envie de dire, oui, mais pour une personne qui ne voit pas ou qui voit mal, le physique, ça ne compte pas. Bien sûr que ça compte, en fait. Hein. Je veux dire, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, on touche la personne, on lui prend le bras, etc. Il y a des goûts et des affinités. Il y a des attirances qui passent aussi par le physique. Hein. Les phéromones, ça passe pour tout le monde. Et puis, Et puis même si on voit mal, on peut être attiré par, la hauteur de la personne ou sa constitution générale, hein, même si on voit pas toujours les détails de ces taches de rousseur ou je ne sais quoi, c'est le premier détail qui me vient à l'esprit. Mais je veux dire, c'est ça aussi, faut le déconstruire, qu'on voit pas ou qu'on voit peu. Il y a quand même quelque chose qui passe aussi par le physique. Et ça, c'est pas ce côté, oui, on ne voit bien qu'avec le cœur. J'aime beaucoup Saint-Exupéry, hein, mais je suis assez d'accord que le fondamental, il n'est pas dans le physique. Mais effectivement, je ne peux pas non plus mentir et dire que le physique, ça ne compte pas. Parce que ça, c'est une belle construction.
Merci Céline d'avoir partagé ton expérience avec nous.
Merci infiniment pour votre invitation. C'était un très grand plaisir que de participer à ce podcast.
Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cet épisode d'Écouter pour voir. Nous remercions chaleureusement Sébastien Kessler de la société IDGO pour ses précieux conseils et son soutien depuis le début de ce projet. N'hésitez pas à partager vos commentaires ou vos ressources en nous écrivant à contact@association-nuance.ch.